Bonjour et bienvenue dans cette série de balados intitulée « Leadership en confiance », une collaboration entre parents partenaires en éducation et le conseil scolaire Via Monde. Je suis Mélanie Gatt, coach certifiée et consultante pour la firme Discitus. Je vous accompagne tout au long de ces 5 épisodes durant lesquels on revient, on explore ensemble les thèmes abordés lors des sessions de coaching qu'on a faites avec les parents leaders du conseil scolaire Via Monde. Cette série de balados s'inscrit dans un projet d'engagement des parents soutenu par le comité de participation des parents du conseil scolaire. À travers cette série, on va explorer ensemble les dimensions essentielles d'un leadership qui se veut bienveillant, engagé et ancré dans la réalité des parents d'aujourd'hui. Alors que vous soyez déjà impliqué ou que vous envisagiez de le devenir, on espère que ces échanges vont vous inspirer à jouer un rôle actif et confiant dans la vie scolaire de vos enfants. Dans ce deuxième épisode, on plonge au cœur d'un pilier fondamental du leadership parental, l'établissement du lien de confiance. C'est une base essentielle pour un leadership solide et porteur. On va se poser la question sur comment la construire, la maintenir et même parfois la réparer. On va explorer des stratégies concrètes pour communiquer avec transparence, cohérence et empathie, tout en cultivant un climat de respect et de collaboration durable. Encore une fois, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand qui va nous livrer son expérience quant à la création de liens sincères avec les autres parents, les membres du personnel scolaire et même les membres des autres comités de parents. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse inspirer par cette conversation. Bonjour Bertrand, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Mélanie, je vais bien, merci. J'espère que toi également.
Oui, merci. Avant qu'on parle de confiance, j'aimerais ça que tu nous en dises un petit peu plus que tu te présentes en tant que parent et ton implication dans la communauté francophone.
Avec plaisir, Mélanie. Donc, je suis parent de 3 enfants, 2 ados, une qui termine sa 12e année dans quelques jours, une autre qui passe en 9e année et puis le garçon qui sera en 4e année. Je suis parent animateur avec PPE depuis 14 ans maintenant. Donc, j'ai l'immense plaisir assez régulièrement d'animer des conversations, d'offrir des ateliers, comme il y a 2 ans là, lors du congrès de PPE. J'ai également rédigé pour PPE la mise en contexte des conseils scolaires francophones, donc le guide d'accueil et d'accompagnement des parents immigrants francophones en Ontario. Je suis co-auteur du livre « Comment devenir consultante aujourd'hui, stratégie ». État d'esprit, stratégie et action pour se démarquer localement et à l'international. Voilà, Mélanie.
Merci, Bertrand. Je suis certaine que toute ton expérience va nous aider aujourd'hui à parler de confiance. Et la première question que je posais dans le webinaire, c'est, selon les gens qui étaient là, qu'est-ce qui détruit et qu'est-ce qui construit la confiance dans une relation? Puis, j'aurais quasiment envie de commencer avec ça, Bertrand. Selon toi, là-dedans, dans ta perception des choses, qu'est-ce qui détruit puis qu'est-ce qui construit la confiance?
Qu'est-ce qui détruit la confiance, Mélanie? Il y a plusieurs éléments qui peuvent la détruire au fil du temps. Quoi que là, l'un des tout premiers, c'est de ne pas tenir sa promesse ou ne pas tenir ses promesses. Une fois en passant, OK, pourquoi pas, la vie n'est pas parfaite. Mais lorsque ça devient, on va dire, répétitif, très clairement, on perdra confiance en nous. Hein. Ou si ce sont les autres, on perdra confiance en ces personnes-là. C'est une certitude. Donc, le fait de ne pas tenir ses promesses. Et l'antidote à cela, de faire le moins de promesses possibles. C'est extrêmement important. De faire le moins de promesses possibles. Ou si on veut faire des promesses ou si on se sent plus ou moins dans l'obligation de faire des promesses, c'est de faire des promesses raisonnables. Ne pas surpromettre. Là. Faire vraiment des promesses raisonnables à la mesure de ce qu'on est capable de réaliser. Et souvent, ce n'est pas de ne pas tenir mes promesses, c'est que parfois, il m'est arrivé d'avoir du mal à tenir mes promesses dans le temps. La question des délais. Et j'ai trouvé un antidote là, c'est d'éviter de donner des dates fixes pour certaines choses. De me laisser une marge. Plutôt que de dire, OK, je te reviens le 12 juin. Je préfère souvent dire dans certaines situations, dépendamment de ce qui est attendu de moi, je te reviens entre le 12 et le 15 juin. Alors, je me laisse une marche. Oui. Dans mon esprit, dans mon calendrier, je vais indiquer le 12, mais en sachant que j'ai une marche jusqu'au 14, jusqu'au 15. Et ça, ça m'a énormément aidé au fil du temps, de me laisser une marche. Par exemple, si on a une rencontre, plutôt que de dire, OK, on se rencontre à 10h30, je vais dire, on se rencontre, je serai là autour de 10h30. Ça me laisse une marge de, par exemple, là, dépendamment de, OK, la rencontre a lieu où, si je dois me déplacer. Ça me laisse la marge d'arriver, par exemple, à 10h35, voire à 10h40, parce que j'ai dit aux environs de 10h30. Ou bien entre 10h30 et 11h. Alors, surtout dans le Grand Toronto, je vis avec les imprévus, les travaux, les embouteillages, etc., etc. Bien sûr, il faut quitter beaucoup plus tôt, mais ce n'est pas toujours, toujours évident, tout le temps. Donc, voilà un premier point. Respecter les délais et puis tenir ses promesses. Mais il y a d'autres éléments aussi, Mélanie, qui peuvent détruire la confiance, c'est le manque de transparence. Évidemment, ça, c'est un sujet délicat parce que dans la vraie vie, c'est facile un peu de dire qu'on va être transparent. Je pense qu'on ne peut pas être transparent tout le temps et avec tout le monde. Pourquoi? Parce que dépendamment du contexte, dépendamment de la personne ou les personnes en face de nous, dépendamment des enjeux, je crois qu'il est prudent, il est même souhaitable, ce n'est que mon opinion, de régler son niveau de transparence jusqu'à un certain point. Mais il faut faire la différence entre ne pas être 100% transparent et mentir, par exemple, parce qu'il y a une ligne rouge entre les deux. Mm-hmm. On ne ment pas, mais on ne dit pas tout non plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on ne peut pas dire tout. Pourquoi? Parce que si on dit tout, on va blesser du monde, on risque de tomber, d'enfreindre la confidentialité de certaines choses. Surtout qu'en face, on peut nous poser des questions qu'on ne devrait pas nous poser et donc nous, on n'a pas l'obligation non plus de répondre à ces questions. Aussi simple que ça. Etc. Donc, il y a un certain nombre de situations, pour ne pas aller trop dans les détails, Mélanie, quand on joue un certain rôle, quand on a certaines responsabilités, on ne peut juste pas dire ce qu'on voudrait peut-être dire parce que ça peut être contre-productif, ça peut être dangereux pour beaucoup de personnes, y compris pour nous. Voilà.
Absolument. Puis
voilà ma réponse transparente.
Oui, mais c'est bon ça. Absolument, parce que tu vois, on en a parlé dans le webinaire, on disait qu'à la confiance, il y a trois piliers. Hein. Tu en as nommé deux sur trois. Là, tu as nommé la transparence, tu as nommé la cohérence. Puis finalement, le troisième pilier, c'est l'empathie. Dans la transparence, ce qu'on retient pour la confiance, c'est vraiment d'être honnête et clair dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement de tout dire à tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui dans mon entourage, qui répète souvent ça. L'idée, c'est pas de tout dire à tout le monde, c'est pas ça le point, mais c'est plus d'être honnête et clair dans ce qu'on dit puis dans ce qu'on fait. Et on en revient à ce dont on a parlé dans un précédent balado sur les intentions. Quand je suis transparente avec quelqu'un, je vais préciser mon intention. Mon intention aujourd'hui ou dans cette conversation ou dans cette rencontre, c'est de trois petits points. Donc ça va être intéressant de faire attention à, OK, est-ce que je suis... Est-ce que j'ai tenu le même discours, même des fois on peut voir ça, est-ce que j'ai tenu le même discours en grand groupe que dans un autre groupe? Est-ce que j'ai vraiment été honnête avec, est-ce que j'ai été cohérent aussi avec ça? Puis je rebondis sur la cohérence dont tu parlais avec le temps, comment tu gères le temps et les promesses. Hein, tu disais c'est important de tenir ses promesses et donc de faire des promesses qui sont raisonnables. Il y a un outil que j'aime particulièrement, qui est très simple, hein, que j'aime particulièrement utiliser quand on parle de cohérence et de promesses. Quand on se fait demander quelque chose, c'est de le passer à travers le filtre des trois réalités. Fait que la première réalité, c'est le temps. Est-ce que j'ai le temps de faire ce qu'on me demande? Le deuxième, c'est est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Puis le troisième, c'est est-ce que ça figure dans mes priorités? Donc, temps, énergie, priorité, c'est comme si je passais les choses qu'on me demande dans un tamis, ces trois tamis, en fait, pour vérifier si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, là, je pourrais comme faire une promesse qui serait raisonnable, qui serait adéquate et cohérente avec là où j'en suis dans la vie. Sinon, effectivement, quitter. Faire une promesse et ne pas la tenir, c'est clairement un manque de cohérence, absolument. Si tu veux nous parler de l'empathie, tu sais, dans le sens que dans la confiance, je pense qu'il faut faire preuve d'empathie, dans le sens où on veut comprendre sincèrement ce que vit l'autre, l'accompagner avec respect. J'imagine que c'est au cœur de ce que tu vis. Voudrais-tu nous en dire un peu plus sur l'empathie?
Avec plaisir, Mélanie. Permets que je dise un dernier mot sur la transparence.
Mm-hmm.
Et je reviens très, très rapidement sur l'empathie. La transparence, c'est aussi de dire à l'autre, je n'ai pas envie d'en parler. Ou bien, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Ou voilà, il y a des informations, je comprends ce que tu me demandes, mais il y a des informations que je ne peux pas partager.
Mm.
Voilà, tout simplement, aussi simple que ça. Maintenant, l'empathie. Oui, c'est super important. Nous sommes comme on le dit souvent, nous sommes des animaux sociaux.
Mm-hmm.
Et si on veut connecter avec les autres, hein, si on veut arriver à communiquer, à travailler, à interagir avec les autres, on doit faire preuve d'empathie, on doit développer ce côté de nous-là. Et tu viens de définir, là, Mélanie, c'est de faire l'effort de comprendre la situation de l'autre. De faire l'effort de comprendre les limites de l'autre, dans nos attentes. Parce que ça va dans les deux sens. Tu as mentionné les trois filtres, les trois tamis.
Mm-hmm.
Et je crois que nous aussi, dans nos demandes vis-à-vis des autres, ce serait bien que les trois filtres que nous utilisons pour nous, que nous puissions les utiliser aussi envers les autres.
Mm-hmm.
En d'autres mots, dans notre demande envers les autres. Avant de demander quelque chose à quelqu'un, posons-nous exactement les trois questions, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce que j'attends de l'autre, est-ce que véritablement, selon ce que je peux voir, là, de ce que je sais de cette personne, est-ce que cette personne a du temps, aura vraiment du temps? Je vais demander si ou ça à une collaboratrice, par exemple, je vais me demander, OK, ben, toi, mais est-ce qu'elle n'en a pas déjà beaucoup? Est-ce que le projet sur lequel elle travaille, la formation ou le webinaire sur lequel elle travaille, que vous devez co-présenter X nombre de jours, elle n'a pas terminé, mais est-ce que c'est le bon moment de lui demander, de lui ajouter des tâches? Ensuite, est-ce qu'elle en a envie vraiment? Est-ce que c'est dans ses cordes? Parce que ça aussi, ça arrive beaucoup dans les organisations. Hein? C'est une question parfois que je me pose, parfois que je ne me pose pas. Je vais être transparent là aussi, où je me dis, OK, je sais que ce n'est pas tout à fait ce quoi elle a envie de travailler, mais j'aimerais qu'elle s'y penche quand même pour apprendre un peu plus, pour sortir un peu de sa zone de confort, parce que ça va contribuer à son développement intellectuel, professionnel, que voilà, qu'elle s'intéresse aussi à telle ou telle thématique. Parfois je le fais aussi avec mon équipe. Et puis l'autre point, le troisième filtre, hein, comme tu disais, Mélanie, mais dans l'autre sens, c'est OK, est-ce que cette personne en a vraiment vraiment envie? Si cette personne nous dit qu'elle n'a pas envie vraiment de se pencher sur ce dossier là, sur ce thème là, c'est peut-être de dire OK, c'est bon, cette fois-ci c'est correct, je te laisse tranquille, mais j'aimerais que la prochaine fois, la prochaine occasion, prochaine formation, prochain atelier, que tu t'intéresses un peu plus. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est, un, on a écouté cette personne, on a tenu compte de sa volonté, de ses intérêts. Donc, on est davantage connecté, on a fait preuve d'empathie, mais on dit aussi à cette personne, écoute, je voudrais que tu ailles quand même un peu plus loin dans ce que tu es capable de couvrir. J'aimerais que tu t'ouvres de nouveaux horizons. Je te propose ce nouveau défi-ci. Pourquoi? Il faut expliquer le pourquoi, parce que ça m'arrive souvent avec une collaboratrice. Elle va me dire, mais tu sais que je n'aime pas parler en public. Bah, maintenant, elle a commencé à prendre goût, là, heureusement, depuis quelques mois. Je dis, oui, je sais que tu n'aimes pas parler en public, mais je sais que c'est bien que tu apprennes à parler en public parce que parler en public, c'est une des compétences essentielles, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas. Je sais que ça te donne du stress, mais on va travailler ça. Voici des stratégies, voici des techniques. Moi aussi, j'ai été là à un certain moment, ne pense pas que j'ai toujours été la personne que tu vois là, qui parle devant les micros, devant les caméras, devant des centaines de personnes, et qui n'a pas l'air d'être stressé. Mais il y a des moments où, même dans les petits groupes de 5-10, j'avais du mal à prendre la parole, ne serait-ce qu'à poser des questions. On est tous passés par là. Et ça, ça la rassure. Et puis, voilà. Là, elle a commencé à prendre goût, là, finalement, depuis quelques mois. Voilà comment je fonctionne. Là.
Good. C'est sûr que là, tu sais, j'imagine que tu nous parles d'une situation dans ton équipe professionnelle, donc où tu as quand même une sorte d'autorité. Quand on est en leadership parental, c'est un petit peu différent. Là, on a moins l'autorité nécessairement sur les autres. On a moins à faire le développement des autres. Et en même temps, je trouve que ton approche est intéressante dans le sens où ton intention, c'est d'aider l'autre, c'est de lui dire « Hey, on pourrait développer ça ensemble. » Fait qu'établir un lien de confiance, c'est avant tout faire confiance aux capacités de la personne. Peut-être que cette personne ne se croit pas capable de juste pas moi organiser la rencontre des finissants ou le bal des finissants cette année, comme je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas si je suis capable. Établir le lien de confiance, ça passe aussi par croire dans les capacités de l'autre, que l'autre peut le faire. Là, je parle peut-être moins d'envie que de capacité. Il y a des gens qui peuvent être plus timides avec leur zone d'inconfort. Donc, de comprendre sincèrement ce que vit l'autre, hein, c'est quoi son insécurité, puis de faire « Ok, je comprends que tu n'es pas là en ce moment, puis moi, je veux juste te dire que je crois en tes capacités. » Donc, ce respect-là, il est vraiment particulièrement intéressant, effectivement, pour revenir pour créer ce lien de confiance-là. J'aurais une question, là, je me posais la question sur quand il y a un lien de confiance qui a été brisé, ce serait quoi tes stratégies à toi, Bertrand, pour réparer ce lien, recréer ce lien, sachant qu'on sait que ça prend du temps à créer et donc ça doit en prendre aussi du temps à recréer un lien?
Une très bonne question. Ça prend beaucoup de temps à créer et ça prend plus de temps encore à reconstruire. D'abord, c'est inévitable, ce n'est pas souhaitable, mais c'est inévitable dans une vie de ne pas, même non intentionnellement, et je crois que la plupart du temps, ce n'est pas intentionnel, de ne pas briser ou égratigner la confiance que telle ou telle personne avait envers nous. Malheureusement, cela arrive, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? C'est d'abord, très le plus objectivement possible, de faire le bilan, de s'arrêter, se demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait qui a entraîné cette perte de confiance-là ou cette relative froideur-là, cette perte d'enthousiasme envers moi? Et de se demander, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce qui m'a échappé en fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Ensuite, une fois que ça s'est clarifié à l'interne, c'est-à-dire de moi à moi, c'est d'aller vers la personne. De demander à lui parler, de demander à la rencontrer, cette personne-là. Et très naturellement, de reconnaître que, voilà, on est passé à côté de quelque chose. Et sans faux semblant, vraiment de s'excuser. C'est très, très important de reconnaître ton erreur, là, par rapport à ça, sans vouloir se justifier. Parce que parfois, on peut tenter de s'excuser tout de suite ensuite de se justifier, un peu comme si on voulait diminuer son erreur ou diminuer sa faute. Ce n'est pas très intéressant de faire ça. Simplement de dire, écoute, j'ai manqué ceci, j'ai dit cela, que bon, je n'aurais pas dû, ou bien voilà, tu aurais souhaité que je fasse ça, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas compris ça comme ça. Voilà, je le regrette vraiment profondément, je m'en excuse. Et puis, au final, sans chercher à diminuer quoi que ce soit. Et laisser l'autre dire comment elle se sent. Laisser vraiment l'autre personne nous dire ce qu'elle a envie de dire, dans quelle situation peut-être émotionnellement, hein, entre autres, elle a été placée du fait de notre erreur ou du fait d'une parole mal choisie de notre part. Et de l'écouter sans l'interrompre. C'est vrai que parfois ça peut être long. On peut parfois, par moment, trouver que l'autre en fait trop, mais il ne faut pas penser cela. Parce que nous sommes différents. Et notre façon de réagir aux événements, de réagir aux circonstances, notre capacité à réguler nos émotions, évidemment, varie d'une personne à l'autre. Il faut le savoir, le comprendre et l'accepter. Donc, laisser l'autre simplement nous dire ce qu'elle veut nous dire sans l'interrompre. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, qui est sous étape, c'est que tous les deux, que les deux parties arrivent finalement à faire la paix en quelque sorte, à repartir sur de nouvelles bases, sur de meilleures bases, une nouvelle compréhension. Et comme j'ai dit dans un balado précédent, dans un podcast précédent, Mélanie, je crois profondément qu'une confiance qui a été malmenée, qui est rétablie, peut, pas toujours, parce que c'est très difficile, ça dépend du degré, ça dépend du contexte de ce qui s'est passé, mais dans certains cas, peut amener à rebâtir de meilleures amitiés, encore de meilleures connexions. Pourquoi? Parce qu'il y a, une meilleure compréhension, en fait, des attentes et des limites de l'une et l'autre partie. Voilà mon expérience par rapport à ça.
Merci beaucoup, Bertrand, pour toutes ces belles réflexions sur l'importance de la confiance. C'est comme comment ça nous permet d'être dans une collaboration qui serait saine, qui serait durable. Ça va nous rappeler aussi qu'au fond, ce qui est important, c'est la qualité des relations humaines. C'est ça qui va faire la différence. Alors, je remercie encore une fois le Conseil scolaire Viamonde puis son comité de participation des parents pour leur initiative et leur soutien financier dans la réalisation de cette série de balados. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le troisième épisode durant lequel on va aborder la communication efficace et la gestion des conflits. Merci beaucoup, Bertrand.
Avec plaisir, Mélanie.